Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Comme on vient de chanter tantôt, hein, l'agneau s'est sacrifié. On remercie le Seigneur pour son sacrifice. Ça, c'est le message de l'Évangile. Mais vous savez, ça a été vraiment ça c'est un sujet d'une grande discussion, ça, même chez les Juifs. Parce que les Juifs se font demander régulièrement pourquoi vous ne croyez pas que Jésus est le Messie. Et constamment, ils doivent réfléchir à cette question-là. Moi, je me rappelle, ce qui les trouble, c'est la mort de Jésus-Christ, sa crucifixion. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années, je pense que vous avez déjà partagé ça il y a quelques fois, j'avais pris des cours à Montréal, à l'Université de Concordia. Ils ont un département juif là-bas. Et ils faisaient venir des rabbins de Jérusalem pour des périodes, des sessions, pour enseigner différents cours. Puis je me rappelle, une fois, j'avais un des bonhommes, un des messieurs, un des rabbins de Jérusalem, parler un peu de la doctrine des Juifs, et ça se situe dans le judaïsme classique, et pas mal dans la période de Jésus-Christ. Ça se divise en trois, le judaïsme. T'as le Moyen-Âge, t'as l'Antiquité, qui est toute la période classique qu'ils appellent, Moyen-Âge et moderne. Et moi, c'est ça qui m'intéressait plus, cette section-là. Je voulais un peu comprendre l'arrière-plan juif du Nouveau Testament et tout ça, cette période-là. Et j'avais eu une discussion avec un des rabbins là-bas, après le cours, et on avait échangé. Et ça, c'était, j'y parlais, je disais comment moi je croyais que Jésus était vraiment le Messie, et je parlais de différents passages et tout ça, on parlait ensemble et tout ça. Et finalement, il m'a dit une chose que je m'attendais pas, honnêtement, là, je vais être bien honnête, je m'attendais pas à cette réponse-là. Il dit, Normand, il dit, vraiment ce qui me préoccupe, je suis pas capable d'accepter. Il dit, je suis pas capable d'accepter que Dieu permettrait que son fils meure. Ça, ça le troublait. Là. Il était intègre dans ses convictions et ça, c'était une des préoccupations qu'il avait. Comment Dieu pourrait accepter que son fils meure? Pourtant, vous savez, ça avait déjà été prophétisé, ça, dans l'Ancien Testament. Un passage classique qu'on voit dans Ésaïe 53 qui parle du sacrifice, l'agneau sacrifié, justement, comment le Messie qui allait venir allait souffrir. D'ailleurs, les premiers rabbins discutaient de cette question-là. C'est intéressant de voir que lorsque les Juifs sont revenus de l'exil de Babylone, ça faisait quand même 70 ans que les Juifs étaient là, et ils avaient perdu leur langue maternelle, l'hébreu. Bien des Juifs ne parlaient plus l'hébreu. Parce que la langue internationale de l'époque, c'était l'araméen, surtout au Proche-Orient. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que Esdras va s'adresser au peuple en araméen. Et donc, les Juifs, avec les années, ont traduit la Bible de l'Ancien Testament, la Bible, vont traduire en araméen, ce qu'on appelle le Targum. Et c'est intéressant de voir que dans le Targum, qui était déjà en usage dans le temps de Jésus-Christ, quoique ça a été plus officiel dans l'an 150, mais c'était quand même là, présent, dans le temps de Jésus, au premier siècle. C'est intéressant qu'à l'intérieur, on a un rabbin qui va interpréter, il donne une paraphrase, si l'on veut, d'Ésaïe 53. C'est un bonhomme du nom de Jonathan Ben Uziel. Et voici ce qu'il va dire. Voici ce qu'il dit dans sa paraphrase sur Ésaïe 53. Il dit, « Mon serviteur, le Messie, prospérera, donc va être élevé, celui qui fut meurtri, alors passé, pour nos péchés. » C'est intéressant qu'il va reconnaître que le Messie va être meurtri pour nos péchés, puis après ça, il va être élevé. C'est exactement la description qu'on a dans les Philippiens 2. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas juste un rabbin qui le cite par hasard. Cette citation-là de ce rabbin sera citée plusieurs fois par les autres rabbins à l'époque du Nouveau Testament. D'ailleurs, on va lire un autre passage dans ce qu'on appelle le Midrash Samuel, un commentaire d'Ésaïe 53, et voici ce qu'on dit. « Toutes les souffrances du monde se divisent en trois parties, dont l'une d'elles est subie par le Messie. » Donc, cette idée-là que le Messie allait souffrir, c'était quand même présent. D'ailleurs, le livre des prières juives, c'est un livre classique, bien des familles juives vont recevoir en cadeau et tout ça. C'est un classique et il y a une section réservée pour des fêtes, certaines prières que les Juifs doivent faire lors des fêtes. Et l'une des fêtes, on appelle le jour d'expiation, on va déclarer sur un ton solennel, on va déclarer notre Messie juste nous a laissé. Nos iniquités, il les porte. Celui qui est blessé à cause de notre transgression. Quand même assez fort, ça. Et ça, c'est dans la plupart des familles juives, ce livre des prières. Ça, c'est un classique. Mais bien des Juifs ne comprennent pas ça. D'ailleurs, mon rabbin, c'est comme lui-même, c'est une pierre d'achoppement pour lui. C'est vraiment un empêchement de venir à la foi que Jésus est le Messie. Quoi qu'il y a eu, il y a eu quand même tout un revirement dans les prochains mois parce qu'il a commencé à lire le Nouveau Testament pour se préparer pour un cours. Et pour la première fois de sa vie, il était exposé vraiment à Jésus-Christ. Et je dois vous avouer que son attitude a vraiment changé à l'égard de Jésus. Avait vraiment un respect pour Jésus-Christ. Mais c'était vraiment, c'est une grande question pour les Juifs, la question de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, évidemment. On peut voir même la confusion des Juifs. Regardez bien comment c'est vraiment particulier, surtout dans le contexte juif, comment cette décision, cette prophétie du souverain sacrificateur en Israël, ce qu'il va dire à l'endroit de Jésus-Christ et ce qu'ils vont décider après de faire mourir Jésus. Regardez bien cette scène tout à fait inhabituel, dans le contexte juif et sur la question de la mort de Jésus. Regardez, écoutez bien ceci. Quand on lit dans ce contexte-là, ça devient tout à fait particulier dans Jean. Il est dit, l'un d'eux, Caïphe, ne savait pas quoi faire, les Juifs discutaient, les chefs religieux, les rabbins discutaient, les pharisiens discutaient quoi faire avec Jésus-Christ, qui était de plus en plus populaire et tout ça. Et Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez pas. Donc ça montre que le souverain sacrificateur, lui-même, on va le voir, ne comprendra pas. C'est une prophétie qu'il a reçue, mais dénote que ce n'était pas vraiment si populaire qu'on pourrait le penser quand même, la mort de Jésus-Christ, parce que voici le souverain sacrificateur qui dit aux chefs religieux qu'ils ne comprennent pas. Et il dit, vous ne comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Maintenant, pour eux, dans leur esprit, il s'agissait de ne pas faire de révolte contre l'Empire romain qui était dominant à l'époque. Mais là, c'est intéressant parce qu'on a une explication de Jean qui dit, au verset 51, il dit, « Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Lui-même ne saisit pas la portée de ses paroles, mais il reprend les pharisiens, ces chefs religieux qui enseignaient dans les synagogues, il les reprend en disant, « Vous ne comprenez pas. » Et effectivement, ils ne comprenaient pas. Quoique, c'était quand même, ça circulait cette notion-là que le Messie devait souffrir et mourir pour des sacrifices. Donc, c'était litigieux, c'était complexe, et certainement des gens qui ont été grandement surpris de l'annonce de la mort, c'était les disciples de Jésus-Christ. On se rappellera, à un moment donné, Jésus, justement, va faire l'annonce, va annoncer à ses disciples, avec lesquels il est un certain temps, ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble, et là, Jésus va leur annoncer sa mort. Et moi, j'aimerais m'arrêter sur cette annonce-là parce qu'elle révèle quelque chose de tout à fait particulier sur un fruit que nous sommes en train de regarder, que nous voulons regarder ce matin. Et nous sommes en train de faire une série en ce moment sur le fruit de l'Esprit. Nous voulons nous arrêter sur un des éléments des fruits de l'Esprit. Et c'est une promesse que Jésus a donnée à ses disciples alors qu'il est en train de leur annoncer qu'il va mourir. Donc, moi, j'aimerais vous inviter à tourner dans Jean 16. Où Jésus va parler de sa mort, mais il va parler aussi de sa résurrection. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que grâce à sa mort et sa résurrection, les disciples vont découvrir, vont avoir une joie intense, très intense. Demandons à Dieu de prier, de bénir ce temps ensemble, si vous voulez bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette chère Église, cette Église que tu aimes tant. Tu es mort et ressuscité pour nous sauver, pour nous réunir ensemble, qu'on soit unis et que nous soyons comme un seul homme, ton corps. Et tu es le chef, la tête. Et Seigneur, ce matin, nous prions que ton esprit nous révèle ces belles promesses, que tu as laissé à tes disciples avant de mourir. On te prie, Seigneur, que ton esprit puisse venir nous rencontrer là où nous sommes, soit à notre travail, soit toutes les choses qui nous préoccupent en ce moment, et soit la maladie, ou quel que soit le contexte dans lequel on peut se trouver, que ton esprit vienne nous rencontrer avec ta bonne parole ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, conduis-nous dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, Jean, chapitre 16, si vous voulez bien, et on va commencer la lecture au verset 16. Jean 16, 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve la tristesse parce que son cœur de souffrance est venu. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Personne ne vous l'enlèvera. Ça, c'est vraiment le verset clé du passage. Verset 22, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne vous l'enlèvera. Jésus annonce à ses disciples qu'il va les quitter. Il sera crucifié, il va mourir, mais il va revenir par sa résurrection. Dans le fond, Jésus est en train d'annoncer qu'il va mourir et revenir à la vie. Et là, Jésus fait une promesse. Il dit, « Mon sacrifice et ma résurrection vont vous permettre d'avoir une joie qu'on ne peut pas trouver ailleurs. » C'est une joie miraculeuse. Cette promesse de la joie parfaite nous apprend que la joie constitue l'essence même de la vie chrétienne. C'est propre à la vie chrétienne. Tu deviens un chrétien, il va y avoir une joie qui va s'instaurer dans ton cœur. Ça fait partie de l'essence de la vie chrétienne. Verset 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous, je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas, certains parmi vous, vous allez avoir de la joie, d'autres, bien, il va falloir travailler fort pour l'avoir. Il ne dit pas ça. Jésus fait une déclaration, il fait une promesse. Si tu es un chrétien, si tu es une personne qui est née de nouveau, tu vas te réjouir. Et personne ne peut t'enlever cette joie surnaturelle qui est là instaurée dans ton cœur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'une des caractéristiques de Dieu. C'est l'un des attributs de Dieu. Dieu est joie. Maintenant, quand on pense à Dieu, on va se dire ensemble, Dieu est saint. On le voit dans les Écritures. Dieu est amour. On le voit dans les Écritures. Mais savez-vous aussi que Dieu est joie? C'est l'un de ses attributs, ça, de Dieu, que Dieu est joie. Être chrétien signifie que tu rentres dans une relation tellement intime avec Dieu que tu attrapes quelques-uns de ses attributs, quelques-unes de ses qualités. On a déjà parlé de ses attributs qui sont communicables de Dieu. On parle de l'amour, par exemple. On parle de la joie, de la patience. Ce sont des attributs de Dieu qui sont communicables, des attributs communicables de Dieu. C'est contagieux. Quand on s'approche de Dieu, on attrape ses qualités. On attrape l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Comme on voit dans Galates 5, 22, ce fruit de l'esprit. Et la joie fait partie de ces attributs communicables de Dieu. C'est un attribut de Dieu. On pense pas à ça souvent. Il y a vraiment un passage dans l'Ancien Testament mystérieux. C'est vraiment là. D'ailleurs, Tremper Longman, qui est un des meilleurs commentateurs sur le livre de Proverbes, il y en a quelques-uns de très bons, mais Longman est vraiment excellent. Et il va expliquer le Proverbe 8. Maintenant, le Proverbe 8 et Longman, ce qu'il va dire, c'est justement, c'est le chapitre le plus difficile et le plus profond du livre des Proverbes, Proverbe 8. Parce que Proverbe 8, c'est la sagesse qui parle. C'est comme, la sagesse est personnifiée. C'est comme si elle devient une personne. C'est comme Madame Sagesse qui parle. C'est la personnification de la sagesse. D'ailleurs, les Juifs, eux-mêmes aujourd'hui, vont interpréter le Proverbe 8 comme étant la personnification de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu comme une personne qui parle. Proverbe 8 nous dit que la sagesse, cette personne qui est la sagesse, a participé à la création de Dieu, la création de l'univers, le monde. En d'autres mots, elle était là, la sagesse était là, et elle a même pris part à la création. D'ailleurs, en lisant le Proverbe 8, on ne peut pas faire autrement que tirer une conclusion que la sagesse qui parle en Proverbe 8 est nulle autre que Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, c'est la conclusion que Paul va tirer, et d'ailleurs, Paul, qui était un maître de l'Ancien Testament, va faire allusion indirectement à Proverbe 8. Lui, il connaissait l'Ancien Testament, c'est pas par hasard. Et il fait un lien, il fait cette correspondance, et lui-même va dire dans 1 Corinthiens 1 et dans Colossiens 2, 3, il fait ce lien entre la sagesse de Proverbe 8, et il est en train de dire que Jésus est l'incarnation de la sagesse de Dieu. Donc, c'est Jésus qui parle. Jésus est la sagesse du Proverbe 8. Jésus est la personnification de la sagesse de Dieu. Maintenant, certaines personnes ont des problèmes avec ça parce que dans le passage, ça dit que la sagesse a été créée avant la fondation du monde et ça laisse entendre que Jésus aurait été créé. Mais c'est un poème, c'est de la poésie. Il faut respecter le genre littéraire de ce chapitre et on peut pas pousser trop loin l'interprétation littérale du chapitre, sans ça, on va avoir un autre problème, c'est celui de croire que la sagesse n'existait pas avant la création. Dieu n'avait pas de sagesse avant la création. Donc, il faut respecter le contexte que c'est un genre littéraire poétique. Mais voici ce qu'on apprend. Les Juifs, eux-mêmes n'ont pas de problème à voir que c'est la personnification de la sagesse de Dieu ici. Et dans Proverbe 8, c'est Jésus qui parle. C'est la sagesse qui parle. Et Jésus va dire ceci, c'est vraiment intéressant. Il va dire, lorsqu'il a tracé, parlant de Dieu, lorsque Dieu a tracé les fondements, les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et ça nous fait rappeler justement dans Jean 1, vous en souviendrez, parlant de la parole, que la parole était Dieu, la parole a créé, etc. Et ailleurs, on voit que c'est Dieu, Jésus-Christ qui a créé, c'est le Créateur. Alors, c'est intéressant que dans Proverbe 8, on a cette citation, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre. « Moi, Jésus, en fond, j'étais à l'œuvre auprès de lui. » Littéralement, l'idée, c'est comme un architecte, un maître d'œuvre. « Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Maintenant, ce verset nous dit que la sagesse a participé à la création. C'est dire que pour avoir une bonne vision du monde, il faut aller à la sagesse. Il faut aller au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le verset ajoute un autre détail qui est vraiment intéressant. Vraiment étrange. C'est-à-dire, il est dit que Jésus jouait sans cesse dans la présence de Dieu et sa création. Maintenant, ça, c'est pas mal fort. Le mot « jouer » ici, « sarak » en hébreu, c'est un mot étrange, surtout employé pour Jésus-Christ, pour Dieu. C'est le mot « plaisir », mais il est plus fort que juste du plaisir. Il signifie en fait « faire des bonds », « sauter de joie ». Vous voyez les enfants là, qui sautent de joie, là? C'est l'image qu'on a ici. Sautent de joie, tapent des mains même. C'est comme ça qu'on s'en sert, ce mot-là. Et Jésus est là, il est en train de dire, lorsque j'ai vu la création, j'ai pas seulement dit, « Hey, pas pire! » Hein? Tu sais, comme des bons baptistes, là. « Pas pire! » Non, non, non. Jésus, lorsqu'il a vu la création, n'a pas dit seulement « pas pire », il dit « Je sautais de joie, je tapais des mains, j'étais excité, j'étais fou de joie. » Alléluia, hein? Hey, aïe, aïe, Jésus. Oh! Maintenant, ceux qui sont baptisés depuis bien des années comme moi, on va peut-être dire, il me semble normal, j'ai la misère à concevoir que Jésus est là dans le ciel, saute de joie, tout excité, puis il est là, il est heureux, il voit la création, puis il tape des mains, puis il saute, ça, il me semble que ça manque de classe, il me semble que ça manque de noblesse, c'est pas vraiment majestueux. Oui, c'est majestueux. C'est majestueux, c'est une joie impériale, c'est une joie qui est sainte. Aïe, 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 je vous étire, là, les amis, hein? Là, c'est dur, là. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que Dieu est. Il est une personne qui, il est joie, Dieu est joie. Et une personne qui connaît vraiment Dieu ne peut pas faire autrement que de connaître cette joie excitante. Sophonie 3:17 dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence. Ouf, par chance, avec d'autres, les baptistes, on aime ça aussi, les silences. On est content. Je vous taquine, mais je me taquine aussi, parce que je suis un baptiste, moi aussi, là, depuis bien des années, mais on a besoin d'apprendre ici, nous autres. On a un effort à faire, tu sais. On a un effort à faire ici. Là. Honnêtement, là, si Jésus saute de joie, je pense pas que j'ai le droit de te juger si tu sautes de joie dimanche quand on chante des cantiques. OK? Tu sais, je sais pas, là. Tu comprends-tu? Puis si t'es pas content, appelle-les. Parce que, OK? C'est réglé? On a de l'effort à faire. Faut avancer. Honnêtement, je vais vous confesser quelque chose. Cet été, je suis allé dans une église. C'est pas une église baptiste. Puis, mon ami, ça chantait, ça sautait pas, là, comme partout, là, puis tombait à terre. Puis ça, il était toujours, on a comme cette peur, là, d'exagérer, là, tu sais, comme, ah, on a peur d'être là, donc on n'avancera pas ici. Honnêtement, c'est ça qui se passe. Puis là, je voyais une assemblée, puis l'assemblée était heureuse, elle chantait, tapait des mains, tout ça, puis ça, waouh, honnêtement, je me suis vu comme, c'est comme si je me suis donné le droit d'aller un peu plus loin que d'habitude. Puis j'ai même sorti mes mains de mes poches, puis j'avais pas le choix, comme de... Yeah! Je chantais, mon ami! Hey! Le baptiste est sorti quelques secondes, j'ai laissé aller! Moi, j'ai le droit de vous parler de même parce que je suis un baptiste. Hein? On est en famille, comme si on parle à mes frères et sœurs autour d'un bon repas. Hein? On a le droit, on s'aime. On s'aime? Pas de réponse. OK, je vais mon CV, je vais préparer mon CV. Hey, si t'es un chrétien, t'as cette joie-là. Regarde Sophonie 3:17, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à... grand cri! À grand cri! Amen! Ah, mon ami, vous êtes durs, les amis. Ah, oui! Hey, le mot évangile! Ça veut dire quoi? Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! Alors, c'est propre à Dieu, c'est son attribut, Dieu est joie, mais en plus, c'est propre à l'Évangile. Si t'as l'Évangile, t'as cette joie-là. Et si t'as pas cette joie-là, c'est que t'as pas l'Évangile. Non, non. Parce que c'est propre à l'Évangile. Jésus saute de joie devant la création du monde. Et sais-tu quoi? Il saute encore de joie devant la nouvelle création qui l'a faite. Amen. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ce que Jésus est en train de dire dans Luc? Dans Luc 15, il dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 autres, juste, qui n'ont pas besoin de repentance, qui disent, ah, moi, j'ai pas besoin du Seigneur. Lorsqu'il y a une seule personne qui vient au Seigneur, c'est le party au ciel. C'est la joie. Jésus dit, il y a tellement de joie au ciel lorsque une seule personne vient à Jésus-Christ. Ça saute là-bas, là. Ça tape des mains. Ça saute, ils sont joyeux, ils sont heureux. C'est l'excitation au ciel quand une seule personne vient au Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Réalises-tu lorsque toi, on t'a présenté l'Évangile, le ciel devait être de même. Les anges devaient... Il va accéder. Puis quand tu as fait ta prière, tu dis, ah oui, Seigneur Jésus, je me reconnais, je suis pécheur. Et hey, ça criait au ciel, c'était l'excitation au ciel. Lorsqu'un seul pécheur vient au Seigneur, c'est l'excitation, c'est la joie. Une âme qui est sauvée. L'Évangile est une nouvelle qui apporte la joie. Vous vous souviendrez. Hey, vous avez vu ça? Seigneur des Anneaux. Eh bien, on connaît le film, mais on connaît aussi l'auteur, Tolkien. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'auteur. Il a écrit plusieurs ouvrages. C'est un homme qui est spécialisé, c'est une personne qui s'est spécialisée dans la littérature. Puis il a écrit plusieurs ouvrages, dont un moins connu s'appelle « On Fairy Stories ». Parle des romans, parle des la littérature de fiction et tout ça. Il a donné des conférences il y a plusieurs années sur sa philosophie de la littérature de fiction. Voici sa théorie sur la fiction. Il dit essentiellement que toute bonne histoire s'inspire en fait de l'histoire de l'Évangile. Nous voici, dit-il, vivant dans un monde de ténèbres et de péchés. Nous nous dirigeons vers la perdition et un héros surgit. Quelqu'un vient et traverse notre monde et prend notre perdition. Et vers la fin, il semble échouer. Il semble vaincu, mais voilà qu'il arrache la victoire alors que la bataille semblait presque perdue. Il se réjouit alors de sa victoire. Il détruit tout le mal. Il appert qu'il n'est pas le faible comme on le croyait, mais un grand roi, et il nous mène à la victoire. Sonne familier? Ça semble familier, hein? Tolkien dit que c'est l'essence de chaque histoire que nous aimons. Regardez chaque histoire que les gens aiment et qui nous réjouissent, que ce soit les romans, les contes, et vous verrez qu'on revient essentiellement aux mêmes situations, dit Tolkien. Le héros de l'histoire semble échouer à la fin, mais voilà. Toutes les histoires sont pour Tolkien qu'une imitation de l'Évangile. Elles sont des reflets de l'Évangile. La différence entre ces fictions et l'Évangile, dit-il, c'est que l'Évangile, la fiction, est devenue réalité. Tolkien ajoute, l'Évangile est l'essence de ce qui nous procure la joie. L'Évangile est la seule histoire, la seule nouvelle qui peut te procurer une joie éternelle, car elle est vraie. C'est la bonne nouvelle. Et nous avons besoin de croire à l'Évangile. Sinon, il n'y a pas de héros. Nous restons dans le désespoir. Nous sommes perdus. C'est la perdition. Nous sommes faits pour croire. Nous avons été créés pour croire à l'Évangile, parce que c'est vrai. Comme le dit Lewis, si nous espérons cet espoir qu'on a, cette aspiration qu'on a d'être heureux au fond de nous, d'avoir cette joie-là. Il dit, si nous espérons trouver la joie et le bonheur et que rien dans ce monde ne réussit vraiment à combler cette soif de bonheur, de joie, c'est dire que je suis fait pour un autre monde que celui-ci. La joie est l'essence même de la vie chrétienne. Mais la joie envahit la tristesse. Ça, c'est un autre point qu'on va voir ici dans ce passage de Jean. Lorsque Jésus annonce sa mort, il est en train de dire aussi que non seulement la joie est l'essence de la vie chrétienne, l'essence même de la vie chrétienne, mais aussi cette joie-là va envahir, va submerger la tristesse. C'est un principe qu'on retrouve dans la Bible. Vous savez que l'opposé de la joie, ce n'est pas la tristesse. Tout comme l'opposé de l'amour, ce n'est pas la colère, c'est l'indifférence, c'est la peur. La Bible nous montre que notre joie est si forte dans le Seigneur qu'elle peut coexister avec la tristesse. Jean 16, 21 dit, lorsqu'une femme accouche, Elle éprouve la tristesse parce que son heure de souffrance est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Maintenant, lorsqu'une femme accouche, et j'ai pas l'expérience là-dedans, là, mais j'ai eu ma femme qui a accouché, mes enfants, mes deux filles ont accouché, fait que je le sais par seconde main, vous me corrigerez si je me trompe, les femmes, mais en tout cas, lorsqu'une femme accouche, et c'est ce que j'ai perçu chez ma femme et mes filles, lorsqu'une femme accouche, elle souffre encore. Hein? Ça fait mal encore, c'est pas comme tout le mal disparaît depuis mal absolument pas. Moi, ma femme, ça a été, c'était pas drôle après, là. Donc, Jésus n'est pas en train de dire que tu n'as plus de mal, mais il est en train de dire que ta joie va submerger. Il y a une joie, la joie du Seigneur va submerger, va envahir ta tristesse. Et voyez-vous, la joie du Seigneur peut absolument coexister à la tristesse. Tout à fait. Maintenant, oui, la mère est heureuse. La mère est heureuse. Mais elle souffre quand même. Le corps vient de travailler pas mal fort, c'est difficile. Mais la joie va submerger la douleur. Et le soulagement ne signifie pas que le corps n'a plus aucun mal, ne souffre plus, mais il y a une joie intense qui l'envahit. Jésus dit, voyez-vous, vos peines, votre peine, vos chagrins ne vont pas disparaître dans le monde. Puis c'est une erreur que bien des gens vont faire. Ils vont penser que si tu viens au Seigneur Jésus, tu vas juste être heureux et tu n'auras plus aucun problème. Moi, tant qu'à moi, c'est de l'hérésie, ça. C'est absolument faux. Si tu viens au Seigneur à cause de ça, là, je te le dis, tu vas être déçu pas mal vite. D'ailleurs, je vais aller aussi loin que de dire que quand tu viens au Seigneur, tu es à la fois plus triste, tu vas devenir plus triste, mais tu vas devenir plus joyeux. En même temps. Je sais que c'est bizarre, c'est étrange. Mais pensons aux milliers de chrétiens qui sont morts martyrs, qui sont dirigés dans la fosse aux lions en chantant des cantiques. D'ailleurs, regardez Jésus. Il avait une joie parfaite. Pourtant, il va pleurer sur la condition des gens du monde. La joie peut coexister avec la tristesse, et Jésus l'a bien démontré. Et ce qu'on peut comprendre de 1 Pierre, lorsqu'on vient au Seigneur, on va justement devenir plus triste et plus joyeux. Et c'est, dans un sens, c'est bien logique, parce que ce qu'on voit dans Ézéchiel, c'est une promesse que lorsque le Seigneur Jésus va venir, et l'Esprit Saint va descendre, il va transformer nos cœurs, il va changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Avant, on se foutait de péché. On n'était pas sensible à ça. Il y avait une conscience morale dans la société, mais au fond de toi, te voir vraiment pécheur, etc. Pécheur devant Dieu, c'est jamais comme quand tu viens au Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Le Saint-Esprit vient parler à ton cœur, il attendrit ton cœur lorsque tu viens au Seigneur. Il amollit ton cœur, il rend ton cœur sensible, tendre. Et c'est une des choses qu'on voit lorsqu'on vient au Seigneur. On devient plus triste, mais en même temps, il y a une joie surnaturelle qui est comme déposée, qui est déversée dans notre cœur, qui va submerger et envahir cette tristesse-là qui est là dans notre cœur. Oui, on se sent plus triste lorsqu'on pêche, plus sensible à ça. Moi, avant de connaître le Seigneur, si je blasphémais, tout ça, mon ami, je me sentais pas mal pour ça. J'allais bien dormir tranquille le soir, j'avais aucun problème avec ça. Mais mon ami, là, c'est juste qu'il y a un mot qui sort de ma bouche qui est à peu près comme bien loin. Bien, tu sais, comme je me sens tout de suite comme mal. Tu sais, je suis pas capable de blasphémer. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'est mon exemple. Votre exemple, c'est d'autres choses. Il y en a qui ne blasphèment pas et tout ça. Je vois ça, mais on n'est pas tous pareils. Mais une chose qui est pareille, il y a un dénominateur commun absolument, c'est que avant de connaître le Seigneur, tu n'avais pas ce cœur tendre à l'Évangile et au péché et au Seigneur. Tu es plus triste dans un sens, et comme Jésus l'était sur la condition des pécheurs, mais une nouvelle joie très intense va envahir notre tristesse. C'est à peu près comme quand tu as froid à la maison. Fait froid à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes le foyer ou la fournaise, puis la chaleur va envahir le foyer. C'est à peu près comme ça, avec le Seigneur. C'est pas qu'il ne fait pas froid. Hein? Il fait froid. À l'extérieur, il fait froid, mais cette chaleur-là vient tout envahir. Et à mesure que la tristesse s'infile dans le cœur du chrétien, le thermostat rehausse la température de la joie et elle envahit ta tristesse. Et ça, c'est le portrait du chrétien solide. Le portrait du vrai chrétien, c'est une personne qui possède cette fournaise qui dégage cette chaleur de joie à mesure que la tristesse s'infiltre. Et cette joie envahit ta tristesse. La tristesse est là, mais la joie va cohabiter avec elle. Troisièmement, la joie est permanente et profonde. Une autre chose qu'on voit des paroles de Jésus. Voici ce qu'il dit au verset 22. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous me reverrez. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Imaginez. Jésus vient de déclarer que lorsque nous sommes ses disciples, notre joie, la joie qu'il nous donne, cette joie divine qu'on va recevoir en venant de lui, ne dépend pas des circonstances. C'est en train de dire que notre joie ne dépend pas des circonstances. Si notre joie se fonde sur Jésus, repose sur Jésus, les circonstances ne changeront pas notre joie. Parce que les circonstances vont changer, il y a bien des choses qui vont changer. Mais Jésus ne change pas, c'est toujours le même, il ne change pas, toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne changera pas. Alors, c'est sûr que si ma joie repose sur mes taux d'intérêt, puis mes relations et tout ça, même des bonnes choses, mais si ma joie repose sur ces circonstances-là, c'est sûr qu'elle ne sera pas permanente. Mais Jésus est en train de dire, regarde, la joie qui se fonde, qui repose sur le Seigneur Jésus-Christ, elle est permanente et elle est profonde. Et quatrièmement, Jésus est la source de la joie. Alors, si Jésus est la source de la joie, et il l'est, alors on veut l'obéir. On veut obéir au Seigneur, on veut le suivre, on veut lui plaire, on veut le prier. Notre joie va suivre notre obéissance à Jésus-Christ. C'est tellement important. Pourquoi? Notre joie est affectée par notre obéissance. C'est notre conscience. Notre conscience. Lorsqu'on pêche, on viole notre conscience. En violant notre conscience, on n'a pas une conscience claire. Et à cause de ça, ça va affecter ta façon. Tu vas perdre de la joie. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent avoir plus d'assurance et être plus heureux que les autres, que d'autres, c'est de savoir que nos péchés sont pardonnés. Si tu crois que tu as accepté Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Ça donne beaucoup d'assurance. Ça donne une tranquillité dans le cœur avec Dieu. C'est pour ça qu'on ça dit que nous avons on a retrouvé la paix avec Dieu lorsque tu viens au Seigneur. Certaines choses de nos vies nous troublent notre conscience et ça va nous priver de joie. Mais obéir au Seigneur va produire de la joie. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 15, juste le chapitre avant. Il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Regardez bien, verset 11 dit, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vois-tu, Jésus lui-même fait une correspondance entre notre obéissance et notre joie. Lorsqu'on obéit au Seigneur, ça donne à l'Esprit Saint la liberté d'opérer de façon tout à fait puissante et surnaturelle dans notre vie. Mais lorsqu'on pêche, on est en train d'attrister l'Esprit, on est en train de l'éteindre. Et c'est pour ça que ça dit « n'éteignez pas l'Esprit » dans le Nouveau Testament, « n'attristez pas l'Esprit » dans Éphésiens aussi. C'est qu'on veut laisser toute la place au Saint-Esprit d'œuvrer puissamment dans notre vie. Et ça, c'est l'obéissance qui permet ça, qui donne cette liberté-là à l'Esprit de faire son œuvre et accomplir dans son œuvre dans notre vie. Évidemment, l'obéissance et la prière aussi. Passer du temps avec Jésus-Christ, c'est sûr, s'approcher de lui. C'est ce qui permet à Paul de dire dans 2 Corinthiens 4, nos légères afflictions. Imaginez, légères afflictions. L'apôtre Paul qui a été fouetté 39 fois, qui a été jeté en prison, qui a été naufrage. S'il y a un gars qui a souffert, c'est bien lui. Il fait la liste à un moment donné dans les Épîtres. Puis il dit, nos légères afflictions, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Un poids éternel. Voyez-vous, l'apôtre Paul, en ce moment, a une image en tête d'une balance. C'est comme si tu mets toutes mes épreuves que j'ai dans ma vie, puis bon, OK, j'ai été fouetté tant de fois, on m'a laissé, on m'a méprisé, on m'a critiqué, on m'a parlé dans mon dos, j'ai fait naufrage, on m'a délaissé, on m'a abandonné, je me suis trouvé tout seul à me défendre, et je mets tout ça sur un bord de la balance. Et ça, c'est pesant, ça. Pas mal pesant. Mais tu mets l'autre côté de la balance, le poids éternel de la gloire. Chou! Ça fait ça. Ça ne se compare même pas. Le poids éternel de gloire. Ça ne se compare même pas. Alors, nous avons besoin, vous et moi, de prendre l'habitude de nous souvenir de ça. Le poids éternel de gloire. Il dit, ça ne se compare même pas. Lorsque je compare, je mets ça, ça balance, mon ami. Toutes les circonstances affreuses auxquelles j'ai été exposé, dit Paul, tout là, sont de légères afflictions maintenant, lorsque je regarde le poids éternel de la gloire. En d'autres mots, ces problèmes semblent tout petits à comparer de la gloire. Imaginez, il dit, dans ma vie, le poids de gloire me fait regarder mes problèmes comme de légères afflictions. Maintenant, c'est pour ça que plusieurs martyrs vont se diriger, vont être tués dans la fosse aux lions et tout ça, puis vont chanter des cantiques. Parce que pour eux, ils réalisent tout le poids de la gloire à comparer de ce qu'ils subissent. C'est rien comparé de ça. Parce que la joie est la gaieté, l'entrain qui résulte du plaisir que l'on peut éprouver devant les privilèges immuables de Dieu. Écoutez ce que dit Lewis. Il semblerait bien que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop intenses, mais au contraire, bien trop faibles. Nous sommes des créatures au cœur partagé qui perdent leur temps avec l'alcool, le sexe et les ambitions personnelles, alors qu'une joie infinie leur est proposée. C'est un peu comme ce pauvre gamin qui préfère continuer à faire des pâtés dans la boue d'un bidonville parce qu'il ne peut pas comprendre ce que signifie l'offre qu'on lui a faite d'aller passer de belles vacances à la plage. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Lorsqu'une personne nous dit, bien, écoute, moi, je ne suis pas prêt à venir au Seigneur tout de suite, c'est pas tout de suite, je vais y penser, peut-être plus tard, lorsque je vais être vieux. Combien de fois j'ai rencontré des gens à qui je parlais de l'Évangile, ils me disaient ça, ils me répondaient ça. Ils disaient, ah, peut-être quand je vais être vieux. Quand je vais être vieux, peut-être. Là, en ce moment, j'ai pas le temps, j'ai bien trop de choses à faire, j'ai des belles choses à faire, tout ça. Je ne vais pas me priver en venant, me semble, au Seigneur, tout ça, ce que tu me dis. Il me semble que je vais me priver des choses. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est que tu te contentes de peu, dans le fond. La personne qui nous dit ça est en train de nous dire, moi, je préfère jouer avec la boue que d'aller à la plage avec le Seigneur. Parce que le Seigneur t'offre bien plus que ce que tu penses. C'est pareil comme le petit gars qui joue dans la boue parce qu'il comprend pas. J'aimerais t'emmener à Cancun, sur le bord de la mer. Mais c'est ça. Tu te contentes de ça quand tu pourrais avoir tellement plus. Comme le dit si bien Lewis, Dieu trouve nos désirs trop faibles. C'est pas que tu veux faire tellement de choses que tu peux pas venir au Seigneur. Non, dans le fond, ce que tu veux faire, c'est là. Puis le Seigneur t'offre. Hey, voici ce que je t'offre. On préfère continuer à faire des pâtés dans la boue quand le Seigneur nous offre de belles vacances à la plage. Sa joie parfaite. Alors, mes chers amis, on a besoin d'arrêter de jouer dans la boue, là. Et on a besoin d'aller chercher ces bénédictions-là que le Seigneur réserve pour nous autres. Cette joie parfaite dans l'obéissance. Et que le Saint-Esprit veut faire, déverser sur nous autres, indépendamment du contexte dans lequel on se trouve. Alors, ça vous tente d'aller à la plage? Hein? Approchons-nous du Seigneur. C'est là que ça se trouve. La bénédiction se trouve là. Seigneur notre Dieu. Il est dit dans le psaume 34, « Celui, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. » Et Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour les bénédictions que tu nous accordes. Et on se contente de peu, Seigneur, quand toi tu es là, tu ouvres tes bras et tu veux nous bénir, tu veux bénir tes enfants, tu veux envahir notre vie par ta présence. Seigneur, combien on a besoin d'apprendre que la bénédiction se trouve auprès de toi. Et nous voulons aller à la plage, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi et jouir de toutes les bénédictions que tu nous offres. Nous voulons suivre ta parole et t'obéir et te plaire, car la bénédiction se trouve auprès de toi. Accorde-nous cette grâce. Un, de comprendre. Et deux, accorde-nous cette grâce de quitter notre boue pour aller à la plage avec toi. Au nom de Jésus. Amen.